Je vais vous inviter à vous tourner dans notre texte aujourd'hui, Michée 7. On va prier et entamer cette étude de Michée 7. Alors, si vous ne savez pas où ça se trouve, c'est si vous êtes dans le Nouveau Testament, vous êtes allé trop loin. Il faut revenir en arrière. C'est les livres des petits prophètes. Si vous avez besoin d'une Bible, n'hésitez pas à le signaler en levant la main. Est-ce qu'il y a... est-ce qu'il y a besoin de traduction? Do we need translation into English? Into German? Japanese? Ok, apparemment non, merci. Prions. Seigneur, merci, oui, parce que tu es un Dieu unique, Seigneur. Tu es un Dieu tellement, tellement spécial, Seigneur, qu'on n'aurait pas pu t'inventer. Les hommes inventent des dieux, les hommes se fabriquent des idoles, qui sont bien sûr à leur ressemblance, parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Et ils font ces idoles en leur donnant des choses qu'ils recherchent eux-mêmes dans leur vie en quantité. Que ce soit des dieux de l'argent, des dieux de la beauté, des dieux des plaisirs. Seigneur, nous savons que tout cela, ce sont de faux dieux. Ils ne peuvent pas nous aider lorsque nous sommes dans la souffrance, lorsque nous sommes dans le doute, dans la peur. Et surtout, Seigneur, tous ces dieux ne peuvent pas nous pardonner nos péchés, Seigneur. Merci de te révéler dans ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité, que nous pouvons sur elle nous fonder nos vies, Seigneur. Aide-nous ce matin à recevoir ce que tu veux nous dire, ce que tu veux dire à chacun. Par ton Saint-Esprit, tu as inspiré ces paroles, ces textes à ce prophète Michée. Voilà, près de presque 3000 ans, Seigneur. Et pourtant, ces choses sont toujours d'une actualité brûlante. Parce que sans toi, Seigneur, nous ne changeons pas. Nous sommes toujours des êtres confrontés à leurs péchés, des êtres qui vivent souvent sous la culpabilité. Et Seigneur, toi, tu es venu, on l'a rappelé à Noël, pour nous montrer comment vivre et aussi pour t'offrir en sacrifice, pour qu'un Dieu parfaitement juste et parfaitement amour puisse nous pardonner. Seigneur, sois glorifié ce matin dans nos cœurs, dans nos vies. On veut aussi te remettre tous nos frères et sœurs dans cette ville qui t'adore en esprit et en vérité. Je te prie d'encourager les églises, les pasteurs, les responsables, que tu donnes la vie dans ces églises, qu'elles attirent beaucoup d'incroyants, Seigneur, comme des lumières sur des collines, Seigneur. On prie que tu nous donnes tous de toucher ce qui nous entoure en cette période de Noël. Et on te remet tout particulièrement ce thé de Noël. Bénis la louange, bénis l'accueil, les bonnes choses qui seront servies et aussi le message que tu vas donner par ta servante, Seigneur. Bénis Corinne, Seigneur. Sois glorifié ce matin parmi nous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Le nom du prophète Michée, que nous avons étudié dans les dernières semaines, pensons terminer aujourd'hui avec ce dernier chapitre, chapitre 7. Son nom signifie « Qui est comme Dieu ?» qui est comme Yahweh, qui est comme elle. Et c'est une réflexion qui est souvent répétée dans la Bible. Qui peut se comparer au Dieu de la Bible ? Il n'y a pas d'autre Dieu pareil. Il est unique, il est grand, il est puissant, il est amour. Un des passages où il est dit que Dieu est incomparable, qu'il n'y en a pas d'autre comme lui, se trouve dans l'Exode, ce qu'on appelle le cantique de Moïse ou le cantique de délivrance, après que Dieu leur ait permis d'échapper à leurs poursuivants, les Égyptiens, après qu'ils se soient décidés à partir pour aller en terre promise. Et il est dit au verset 11, Moïse a écrit, « Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels ? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles ? Tu as tendu ta main droite, la terre les a engloutis. » C'est le miracle du passage de la mer des Joncs. « Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure. » Ces versets célèbrent la victoire des Juifs sur leurs ennemis. Au passage, c'est intéressant, verset 11 quand même, il est incomparable parce qu'il est magnifique en sainteté. Sainteté, c'est cette perfection morale, mais c'est aussi le fait qu'il est vraiment unique, il est à part. Il est redoutable parce qu'il est puissant et qu'il peut, si cette puissance est dirigée contre sa créature, ça peut être terrible. Dans la lettre aux Hébreux, il est dit « c'est une chose terrible que de tomber dans les mains du Dieu vivant ». Il est digne d'être loué. Il y a quelque chose en nous, dans notre construction, qui fait qu'on a soif d'admirer, soif d'exprimer cette admiration en criant, en chantant, en se levant, en clapant des mains, oui. Et il suffit d'aller voir les matchs de sport, il suffit d'aller voir les rassemblements politiques, surtout en campagne électorale. Allez, Intel, allez l'OGCN, on va gagner, on va être les champions de la fin de 2016. Après, on se doute que ça va être plus dur, mais on a en nous, et toutes ces choses ne sont pas dignes d'être louées. On peut les apprécier, on peut, si ça prend pas une dimension trop importante, on peut être content, satisfait des résultats de notre équipe, mais c'est pas, il n'y a pas de quoi louer, il n'y a pas de quoi. Et on voit de temps en temps, et c'est pas pour me moquer d'eux, mais il y a quelquefois des reportages où on voit qu'il y a un amateur de foot qui collectionne les maillots de l'OGC Nice depuis la création, je sais pas si c'était en 1906 ou quelque chose. Et puis ils ont des photos, ils ont des reproductions, des coupes, et ils connaissent tout. Ils en ont fait une idole, c'est devenu leur dieu. Mais c'est pas digne d'être loué, toutes ces choses. Encore une fois, on peut des fois par humour, on peut se dire fan de telle ou telle chose, mais le seul qui soit digne d'être loué, c'est l'Éternel, qui est capable de faire des miracles. Toutes ces idoles, toutes ces choses que vous vénérez, votre compte en banque, désolé, mais si vous êtes gravement malade, peut-être que vous pourrez vous payer les meilleurs soins, mais il arrivera un moment où ces euros seront incapables de vous guérir de telle ou telle maladie. Et dans ce passage, c'est donc l'accent s'est mis quand même sur la victoire que Dieu donne. C'est une bonne chose. Un autre passage où vous pouvez vous tourner, c'est le psaume 71-19. C'est avant les prophètes. David, qui est pourchassé, qui est malheureux, qui est en fuite, fait un appel urgent à l'aide de Dieu au psaume 70. « Ô Dieu, délivre-moi sans tarder, Éternel, viens vite à mon aide. » Et puis au psaume 71, verset 19, il dit « Ta justice, ô Dieu, atteint les sommets. » Tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi? Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie, tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Tu augmenteras mon honneur, tu me consoleras encore et je te louerai au son du luth. Je changerai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. Etc. Et l'idée, c'est que Dieu est un Dieu incomparable pour nous secourir. Ça, c'était une réponse à ses besoins personnels d'être délivré des accusations injustes, de la ruine, de la honte, de la confusion. Et là encore, il n'y a pas d'autre Dieu aussi fort que Yahweh, que le Dieu de la Bible, pour répondre à ses besoins et à nous faire des actes puissants, presque des miracles de délivrance. Michée, lui, il va mettre dans ce chapitre 7, je vous invite à y revenir, si vous l'avez perdu de... Revenez au chapitre 7. Lui, il va mettre l'accent sur une qualité de Dieu et c'est par cette qualité qu'il va terminer. C'est que Dieu est unique pour pardonner. Donc Dieu est unique dans bien des dimensions et on va voir que dans ce passage du chapitre 7, il va nous montrer, Michée va nous montrer qu'il y a plusieurs façons, encore une fois, dont Dieu est suprême. Son excellence est insurpassable. Il n'y a pas mieux. Ne cherchez pas ailleurs, c'est pas la peine, il n'y a pas mieux. Et quelque part, la Bible dit que si nous sommes enfants de Dieu, son esprit nous convainc que c'est l'esprit de Dieu qui nous convainc que nous sommes esprit de Dieu. Et je ne sais pas pour la plupart d'entre vous, mais une fois que vous avez rencontré Dieu, le Dieu de la Bible, que vous êtes donné à lui, que vous lui avez remis le contrôle, les clés de la voiture de votre vie en disant « Je veux te suivre, je veux recevoir, je crois que tu es, que tu existes, que tu es mort pour mes péchés et j'accepte ce sacrifice et je deviens mon sauveur et deviens mon maître et mon sauveur. » Quand on fait ça, si vous reportez au moment où ça vous est arrivé, si ça ne vous est pas encore arrivé, on en parlera à la fin. Mais il y a vraiment le sentiment qu'on n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur, je n'ai pas dit « c'est bien, mais je vais aller étudier le Coran » ou « c'est bien, mais je vais aller étudier la Bhagavad Gita »« c'est bien, mais je vais aller voir qu'est-ce que le Nouvel Âge a à me dire ». Ce genre de démarche, on peut les faire quand on est en recherche, mais une fois qu'on a trouvé, on n'a plus envie d'aller, d'aller chercher ailleurs. Parce qu'on sait qu'il est... Plus on le connaît, plus on apprend à le connaître en étudiant sa parole, et plus on réalise que son excellence est insurpassable. Il y a peut-être des analogies, des produits humains. Quand on achète une Mercedes, en général, on ne va pas essayer la 4L ou la 2 chevaux. On est heureux d'avoir atteint le sommet et on ne cherche pas ailleurs. Peut-être que je ne suis pas spécialiste. Et après, il y a des voitures sans doute plus chères. Mais l'idée, c'est qu'on va voir que Dieu est suprême de 4 façons. Il est suprême en jugement. Il n'y a pas de juge plus juste, il n'y a pas de juge plus honnête. Et autant lui dire toute la vérité, rien que la vérité, tout de suite, parce qu'il la connaît. Mais il veut que nous soyons en accord avec son jugement sur nos actes, sur nos actions. Il est aussi suprême en délivrance. On l'a vu en faisant allusion à l'Exode et au psaume. Notamment. Et puis, il est aussi suprême comme berger, comme celui qui prend soin de nous, comme le bon pasteur. Le mot pasteur, c'est triste quand, lorsqu'on pense simplement à une position d'un responsable de l'Église. Le pasteur, c'est pas un titre. Ça doit être un cœur, le pasteur. Le pasteur, c'est celui qui veut prendre soin de ses brebis. Le mot pasteur, c'est le mot de berger. C'est la même chose. Et donc, on va voir qu'il est suprême en tant que grand berger, mais surtout, et c'est le but, je crois, de ce chapitre, c'est de nous amener au summum, un Dieu qui est incomparable pour pardonner. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont soif d'être pardonnés? Est-ce que vous avez toujours fait tout juste? Ou est-ce qu'il y a des fois des moments où vous aimeriez pouvoir faire un contrôle Z, pour reprendre le titre d'un message de James, l'an dernier, je crois, ou il y a quelques années, ou bien rembobiner la cassette de votre VHS pour choisir une autre voie. Il est, on va lire Michée 7, on va d'abord lire les versets 1 à 7. Le boulot de prophète, c'était pas un travail facile. On recevait des messages du cœur de Dieu par son Esprit Saint qu'on devait transmettre au peuple, à des gens rebelles que Dieu essayait de corriger. Et bien souvent, ces prophètes étaient ignorés, ces prophètes étaient persécutés. Ces prophètes n'étaient pas des personnes qu'on admirait, des personnes à qui roulaient avec des voitures de luxe, des chariots de luxe. Aujourd'hui, le terme des fois est galvaudé par certains télévangélistes qui se disent être des prophètes et qui sont surtout là à ramasser des profits plus que des vrais prophètes, prophéties. Ça marche pas très bien comme blague en français. Ça marche mieux en anglais. Prophets for profits. Et donc, il voyait tout ce qui se passait autour de lui et il était déprimé. Aujourd'hui, si on regarde un peu la situation du monde, si on regarde l'économie, si on regarde la moralité, si on regarde les dangers de guerre, on peut, et les guerres qui se passent en ce moment, les vies, les villes assiégées, détruites, les enfants tués, les enfants abandonnés, les orphelins, la misère, on a de quoi être déprimé. Malheur à moi, c'est son cri. Malheur à moi. Car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a pas de grappe à manger, pas une de ces figues précoces que je désire. Et une publicité, les fruits de l'été, c'est maintenant. Mais ça, on l'entend au mois de juin, au mois de juillet. On ne l'entend plus au mois de novembre ou en décembre. Et c'est quelque chose qui me manque, les fruits de l'été. J'ai déjà parlé de mon goût pour les bonnes nectarines bien croquantes, mon goût pour les melons qui sentent bon, qui sont juste à point. L'autre jour, j'ai failli faire une surprise à Nancy, puis j'ai dit non, ça va pas lui plaire vraiment. Il y a un petit marchand de légumes avant Bricorama qui vend des légumes de qualité, mais très chers généralement. Et j'ai vu là des melons au mois de décembre. Je ne sais plus d'où ils venaient, de Guatemala. Okay. Et ça coûtait, le melon coûtait 10 euros, donc c'était abordable, mais je crois que Nancy n'aurait pas apprécié le goût du melon. En plus, il n'y avait aucune garantie. Mais le prophète est là à se dire, je regarde tout autour de moi, il n'y a rien de bon qui a trouvé. Pas de bons fruits dans lesquels mettre mes dents. Et puis là, il dit, verset 2, l'homme de bien a disparu du pays, il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand exprime ses désirs. Et ils font ainsi cause commune. Le meilleur parmi eux est pareil à une ronce. Le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. Continuez, le jour annoncé par tes prophètes, le jour de ta punition approche, c'est alors qu'ils seront consternés. Ne crois pas à un ami, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime devant celle qui repose sur ta poitrine, garde-toi bien d'ouvrir la bouche, car le fils méprise le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère, chacun a pour ennemi les membres de sa famille. Il dresse là un portrait très, très déprimant de ce qui se passe autour de lui, dans une société où Dieu a été rejeté, Dieu n'est plus écouté, Dieu a été remplacé par des milliers d'idoles, chacun fait comme bon lui semble. Il va même jusqu'à penser qu'il n'y a plus personne de bien. L'homme de bien a disparu du pays, il n'y a plus de juste parmi les hommes. Dieu garde souvent un reste dans la société, dans le monde, de gens qui sont encore justes, mais on a vraiment souvent l'impression qu'il n'y a plus une personne qui soit digne de foi, qui soit entre guillemets bien. On sait qu'un homme parfait, un homme sans péché n'existe pas, mais on a ce sentiment que partout où on se tourne, il y a la corruption, il y a le mensonge, la dissimulation fiscale dans les paradis fiscaux, des viols, des meurtres, et on a de quoi être déprimé. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. On peut même plus se confier ou se fier à ses amis, même à sa famille. Verset 5, ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Et ça va même jusque dans la famille. Ne te confie pas à ta femme, celle qui repose sur ta poitrine. Ne va pas, garde-toi d'ouvrir la bouche. Il a le jugement dont il est question, il en a déjà parlé. Il a considéré que le jugement, ça allait être la chute des villes qui étaient assiégées, que ce soit Samarie au nord ou Jérusalem plus tard, qui allait tomber en 586-587 avant Christ avec les armées de Nabuchodonosor. Il considérait en fait que cette chute militaire, cette prise par l'ennemi de villes assiégées, c'était le jugement. Mais on a vu avec la fin du chapitre 6 qu'on peut manger sans se rassasier, qu'on peut faire des réserves qu'on ne sauve pas, qu'on peut semer mais ne pas moissonner, presser de l'olive mais ne pas se parfumer d'huile, faire couler le jus de raisin mais ne pas pouvoir le boire. En fait, le jugement est déjà arrivé indépendamment de la grande catastrophe militaire de la prise par l'ennemi de la ville assiégée. Et ce jugement, il se manifeste par cette désintégration, par cet effondrement, ce déclin monumental de la société. C'est au plan de la moralité, l'homme de bien a disparu du pays, tout le monde est prêt à faire du mal à l'autre. C'est aussi au plan des dirigeants politiques, des dirigeants, le prince a des exigences, le juge réclame un salaire, autrement dit, ces responsables sont des autocrates, ils veulent aussi des pots de vin, il y a de la corruption, ils ont la folie des grandeurs. Ils font des conspirations pour assurer leur avancement. Je dois préfacer que toute ressemblance avec des faits réels se passant aujourd'hui est purement fortuit et le fruit du hasard. Ça, c'est l'avertissement qu'on voit sur les films pour qu'ils ne soient pas poursuivis. Et je ne veux pas être poursuivi par les hommes politiques en disant que des fois, on a l'impression que ça pourrait s'appliquer à des choses qu'on vit aujourd'hui. Au plan de la moralité, au plan des leaders, des responsables, et aussi, donc, on l'a vu, au plan des amis et de la famille. On ne peut plus faire confiance à personne. Et ça, c'est d'une façon, c'est déjà le jugement. Le fait que la société soit bloquée, qu'on ne puisse pas avancer, le fait qu'on stagne, toutes ces choses-là, c'est déjà peut-être un jugement de Dieu sur un pays qui a rejeté, qui se moque de Dieu, qui promulgue des lois qui sont contraires à la loi de Dieu. Et c'est une façon dont Dieu juge les hommes, c'est de leur dire, vous voulez aller vers telle chose, eh bien, allez-y. Faites l'expérience de votre péché jusqu'au bout. Vous ne voulez plus de foi chrétienne dans votre pays. Vous ne voulez plus qu'on on enseigne des principes judéo-chrétiens aux enfants, n'allez pas vous plaindre si ces mêmes enfants commettent des actes atroces, s'ils brûlent des représentants de l'ordre, s'ils se tuent entre eux, s'ils portent tous des couteaux qu'il faut essayer de détecter avec des... Autrement dit, je vais vous laisser à votre péché, et c'est ce que Paul dira dans Romains 1, à partir du chapitre 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. Il fait appel au fait qu'il est donné à tout homme de savoir qu'il y a un Dieu, parce que Dieu a révélé d'abord les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Notre conscience et la création extérieure nous disent « Il y a un Dieu puissant qui a créé ces choses, il y a un Dieu qui existe. » Mais puisqu'en connaissant Dieu, c'est dans verset 21, Romains 1, 21, ils n'ont pas donné la gloire qu'ils méritaient en tant que Dieu, ils ne lui ont pas montré de reconnaissance, au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images, des idoles, qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Et là, ce principe, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Puis il continue, c'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même pour les hommes. Et puis, cette idée qu'il nous livre, comme ils n'ont pas jugé, verset 28, comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, etc., etc. Dieu nous livre à nos péchés, Dieu nous livre à nos perversions, à nos mentalités perverses. C'est la façon dont Dieu est un Dieu unique dans le jugement. Il peut nous amener à un point de non-retour avec une catastrophe, avec une armée qui nous envahit, une guerre qui nous anéantit. Mais il est aussi prêt à nous laisser à nos péchés dans l'espoir que nous revenions à nos sens. Que l'on dise, on ne peut pas continuer comme ça, il faut faire un retour à Dieu. Dieu est suprême en jugement, et verset 7, quand vous êtes déprimé parce que vous voyez que vous n'avez plus un seul ami vers qui vous tournez, ne désespérez pas parce que Dieu est toujours là. Le prophète dit, mais moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. C'est-à-dire qu'il va prier, il va regarder à Dieu et prier. Veillez et priez. Vous pouvez toujours, au fond du désespoir, vous rappeler, j'espère que ça ne demande pas un grand effort de mémoire, mais que c'est un réflexe, c'est terrible tout ce qui se passe autour de moi, je n'ai plus d'amis, même ma famille, je peux compter sur eux. Mais moi, je regarde vers l'Éternel, il trouve du réconfort. Dieu est suprême en jugement, il est suprême en délivrance. Ne te réjouis pas à mon... Ça, c'est la nation, là, il y a une alternance de personnes qui parlent. Là, c'est la nation juive. Verset 8, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. » Mon ennemi le verra et sera couverte de honte, elle qui me disait « Où est l'Éternel ton Dieu ?» Mes yeux se réjouiront à sa vue, alors elle sera piétinée comme la boue des rues. Le jour où l'on reconstruira tes murs, ces jours-là, tes limites seront reculées. Ce jour-là, on viendra vers toi de la Syrie, des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs agissements. Verset 15, comme à l'époque où tu es sorti de l'Égypte, je te ferai voir des prodiges, les nations le verront et seront couvertes de honte avec toute leur puissance, elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies, elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre, elles sortiront effrayées de leur forteresse, elles trembleront devant l'Éternel notre Dieu, elles te craindront. Dieu va les délivrer. Dieu va les délivrer et la nation est se défend des attaques de ses ennemis. Là, il y avait les Assyriens, puis les Babyloniens. C'était la ville de Jérusalem qui c'est elle qui est le verset 11, le jour où l'on construira tes murs, c'est la ville de Jérusalem, ces jours-là, tes limites seront reculées. Jérusalem s'est personnifiée et l'ennemi, ça peut être une autre ville comme Ninive, la Syrie, représentant la Syrie, ou Babylone, représentant les ennemis qui allaient emmener Juda en captivité. Dieu va délivrer. Il y a de l'espoir. Ils vont d'abord être délivrés. Ils vont revenir à Jérusalem après l'exil, mais ultérieurement, ultimement, à la fin des temps, le peuple juif passera par la tribulation, ceux qui n'auront pas encore reconnu Jésus comme sauveur, mais beaucoup d'entre eux seront sauvés. Il y aura une délivrance. Nous, en tant que chrétiens, nous avons fait l'expérience de cette délivrance. Nous sommes passés de la noirceur à la lumière glorieuse, de la noirceur du péché à la lumière glorieuse de Christ. Dieu délivre, non seulement il délivre du péché, mais il nous restaure pour qu'on puisse le servir. Dieu est un Dieu qui délivre. Et il n'y en a pas d'autre pour nous délivrer comme ça. Nous donner la paix, nous donner la joie, nous donner une raison de vivre, nous donner un but. Dieu, le Dieu de la Bible, est vraiment un Dieu suprême en délivrance. Et puis, c'est aussi un Dieu qui est suprême en tant que berger. Michée parle à Dieu, verset 14, et lui dit « Conduis ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel, qu'il broute sur le Bazan et en Galaad comme autrefois. » Le Bazan et Galaad, ce sont des régions d'Israël qu'on peut visités encore aujourd'hui, qui sont très, très prospères, qui ont beaucoup de végétation, ou qui sont des territoires agricoles très riches, au point que Israël est devenu un exportateur mondial de fruits et légumes. Les guides, je me souviens d'un guide qui nous disait, lorsqu'on prenait le petit déjeuner dans un kibbutz, en visitant les lieux saints d'Israël, il nous disait c'est pas des fruits que vous mangez. Et c'est vrai que c'était des fruits formidables, des beaux fruits. Il disait ce sont des prophéties accomplies. Au lieu de dire tiens, je vais prendre une nectarine, je vais prendre une prophétie accomplie. Dieu va redonner la vie et il prend soin. Il va faire paître son troupeau. Et c'est quelque chose qu'on a remarqué déjà, on a fait remarquer dans tout le livre de Michée, c'est qu'à chaque fois il y a des nuages qui s'amoncellent, ça devient très noir, comme un orage terrible s'approche. Mais il y a toujours un liseré d'argent. Il y a toujours un peu d'espoir qui illumine ces nuages noirs. Ça rappelle une chanson qu'on chantait avec Jean sur la place de la préfecture quand on protestait contre le mariage pour tous. Que les gens soient libres de se mettre avec qui ils veulent, c'est une chose, mais d'utiliser le même mot pour quelque chose qui a été institué par Dieu, ça me révolte. Et peu importe, à ce moment, pour l'instant, ce qui compte, c'est qu'il y a toujours, un peu d'espoir avec les jugements annoncés, les choses qui approchent dans la vie avec Dieu. Et il nous dit ici que il va y avoir toutes ces choses terribles, mais je supporterai la colère de l'Éternel, verset 9. J'ai péché contre lui jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Cette idée que nous sommes dans le péché, dans la désobéissance, dans l'éloignement de Dieu, nous sommes dans les ténèbres. Et il nous appelle à sa sainte lumière, il nous appelle à venir dans la lumière. Si on est dans la lumière, on ne peut pas continuer dans le péché de façon style de vie. Ça, c'est un Jean qui nous le dit. Il y a cette belle illustration du fait que nous sommes le troupeau conduit par Dieu. Et là, on se doit de revenir au plus célèbre des psaumes, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible, il me redonnera des forces. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. C'était le sceptre et le bâton, c'est une façon de traduire ta conduite et ton appui, mais originellement c'était deux types de bâtons, une houlette et un bâton pour frapper. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dieu, le berger, est unique. Il n'y en a pas d'autre qui nous donne toutes ces choses. Il nous donne du repos. Je ne manque de rien. D'abord, il me donne du repos dans des pâturages bien verts, près d'une eau paisible. J'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire, c'est beau, c'est vert, c'est reposant. Rien que d'évoquer ces mots et de commencer à faire une image, votre tension artérielle a baissé. Il nous donne ce repos. Il y a un livre qui a été publié il y a quelques années par un ancien berger professionnel, Philippe Keller, qui a écrit des livres justement sur ces analogies des brebis avec les croyants. Il dit que pour qu'une brebis puisse vraiment faire l'expérience du repos et s'allonger par terre dans l'herbe, il y a quatre choses essentielles. Premièrement, il doit y avoir aucune peur. Ils doivent être à l'aise, ils doivent connaître le berger, ils doivent savoir qu'il n'y a pas de danger autour. Ça, c'est par rapport au berger, il ne doit y avoir aucune peur. Maintenant, il y a aussi un problème, c'est que si toute la journée ils se sont disputés, les brebis, les moutons, la nuit, ils vont pas se mettre par terre et dormir. Ils vont se surveiller, ils vont vérifier qu'on ne vient pas leur prendre quelque chose, qu'on ne vient pas les mordre. Et s'il y a des tensions, s'il y a des frictions avec les autres, les moutons ne vont pas faire l'expérience du repos. Je peux vous garantir que si vous avez des frictions, des problèmes avec les autres, vous n'allez pas non plus faire l'expérience du repos apaisant. Il ne doit pas y avoir d'insectes ou de parasites, sinon les moutons ne peuvent pas, s'il y a plein de mouches qui viennent leur tourner autour, ils ne vont pas se reposer. Nous aussi, si on a des pensées parasites, si on a des soucis, on va pas faire l'expérience du repos. Et puis, la quatrième exigence pour qu'un mouton puisse dormir, c'est qu'il ait bien mangé. Manger bien. S'il n'a pas bien mangé, il va avoir faim. Un peu comme nous, si on a faim, on se lève, on va voir ce qu'il y a dans le frigo, il n'y a rien, on se recouche, on va voir une deuxième fois pour voir, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas vu. Ça ne m'arrive jamais, hein, Nancy prend bien soin de moi. Mais il y a le repos, il y a aussi le fait qu'il nous guide. C'est un bon berger parce qu'il nous guide comme dans le psaume 23, on voit qu'il faut qu'il y ait cette direction et ce sentiment qu'on est guidé, quelqu'un prend soin de nous. Le verset 4 nous parle de la sécurité que Dieu nous donne. Quand je marche dans la sombre vallée de la mort, on pense que c'était entre des plateaux et qu'il descendait d'un plateau, qu'il y avait des prédateurs comme des loups qui pouvaient attendre dans des sentiers le passage des animaux pour les attaquer. Donc c'est ça, la sombre vallée de la mort. À l'origine, je ne redoute aucun mal parce que tu es avec moi. Donc c'est un berger suprême, il nous donne cette sécurité. Il prend soin de nos besoins matériels. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu me donnes à manger, tu me donnes de l'huile sur la tête, tu fais déborder ma coupe. Tu ne me donnes pas juste un peu, tu rassasies. Ça va au-delà de ce dont j'ai besoin. Il nous donne une demeure éternelle. Il nous conduit à la maison de l'Éternel. Et on est accompagné par le bonheur et la grâce. Et on peut vraiment remercier Dieu d'être ce bon berger. Et souvent, c'est ce psaume 23 est le seul psaume que les gens connaissent, le seul passage de la Bible, mais c'est un très bon passage. Il faudrait qu'ils connaissent aussi Jean 3,16. Qui nous dit que Dieu est mort pour mes péchés et que si je l'accepte, j'ai la vie éternelle. Mais c'est à juste raison qu'on peut remarquer qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse nous donner toutes ces choses. Et puis il termine, et en fait je crois que c'est un peu une apothéose. C'est un raccourci de théologie biblique fantastique. C'est un sujet de joie. Dieu adresse ou répond à notre plus grand besoin, celui de pardon. Tout à l'heure, On a chanté, les paroles m'ont frappé des fois quand on peut chanter sans trop faire attention aux paroles. Mais il y a ce qu'on appelait dans ce chant la paix divine du pardon. Dans « Ô viens bientôt Emmanuel », au cœur troublé apporte donc la paix divine du pardon. On a tous besoin de pardon. C'est un besoin vital. Et souvent, les gens se lancent dans des addictions, deviennent accros à quelque chose pour répondre à ce besoin, en oubliant ce sentiment terrible de culpabilité. Le pardon des péchés. Quel Dieu est semblable à toi ? Lui qui s'appelle Michée, son nom ça veut dire « Quel Dieu est semblable à toi ? Qui est semblable à toi ?» Il termine par ce jeu de mots. Je m'appelle « Qui est semblable à toi ?» et je te le demande. Qui est semblable à toi ? Il n'y en a pas d'autre. Tu pardonnes la faute. Pardonnez la faute. En hébreu, le mot, c'est un mot qui peut vous faire aller vers Dieu, c'est le mot « nasa ». Comme la NASA, ça se prononce peut-être un peu NASA, mais le dé, c'est pas de dire bon, j'oublie, on n'en parle pas, on verra, c'est une autre étape dans le pardon, mais c'est simplement porter pour enlever. Vous vous souvenez peut-être que à l'origine, il y avait des sacrifices qui devaient être offerts, et il y avait un sacrifice on offrait un bouc en sacrifice en le faisant brûler sur l'autel, et puis il y avait un autre bouc qu'on appelait le bouc émissaire, pas le beau commissaire, le bouc émissaire, c'était celui sur lequel, en priant, le grand prêtre transférait les péchés sur l'animal. Et l'animal portait les péchés et il disparaissait. On le chassait et on ne le voyait plus. Il avait porté les péchés du peuple. Et bien sûr, c'est une préfiguration, c'est un type du fait que Jésus-Christ a porté mes péchés, a porté vos péchés, a porté tous les péchés de l'humanité sur la croix. Lui qui était parfait, qui était de toute éternité avec le Père, et le Saint-Esprit, dans une félicité qui n'avait jamais commencé, qui avait toujours été, il a accepté de prendre tous nos péchés sur lui, toute la noirceur, l'horreur de tout ce qui se passe autour de nous, qui est mauvais. Il a porté ça et il s'est offert en sacrifice. C'est pour ça qu'il peut, il enlève la faute, il oublie la révolte. La faute, c'est l'iniquité, c'est tout ce qui est perversité, dépravité. C'est pas la mauvaise réponse au QCM. C'est tout ce qui fait qu'on a de la culpabilité. Tu oublies la révolte du reste de ton héritage. L'héritage, le reste de son héritage, c'est les Juifs qui viennent à Dieu en repentance. Il oublie le fait qu'ils se sont révoltés. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bonté. C'est son caractère. C'est ce qui fait qu'il est... Il est unique. Qui est comme lui ? Il n'y en a pas d'autre. On nous parle de certains dieux dans certaines religions qui sont des dieux où on ne peut pas connaître leurs sentiments. Ils peuvent très bien se mettre en colère et nous condamner. Lui, il prend plaisir à la bonté. La bonté, c'est le mot qui est traduit par la gentillesse ou par la grâce, par la fidélité. C'est le mot « chesed » en hébreu. Et ça, c'est quelque chose qui lui donne de la joie. Il prend plaisir à être bon. Je me souviens, lorsque j'étais gosse, on demandait à ma mère, qu'est-ce qu'on peut t'offrir comme cadeau à Noël ? Oh, moi, je ne veux pas de cadeau. Moi, ce qui compte, c'est que vous soyez gentil avec moi. Ou que vous entendiez bien entre vous. C'était une pâle approche du cœur de Dieu, mais c'est lui qui oublie et qui voit, qui se prend plaisir à nous faire du bien. Il prend plaisir. Il aura encore compassion de nous. Cette miséricorde, cette compassion, cette souffrance de nous voir dans le péché, dans la douleur. Et puis, il est dit, il va piétiner nos fautes. Nos péchés, il va les écraser aux pieds, sous ses pieds. Il va subjuguer le péché. Il va vraiment détruire. Mais pour ça, il a fallu qu'il sacrifie son fils, qu'il aille à la croix et que nous soyons au bénéfice de ce pardon immense. Il nous dit donc une chose remarquable, c'est que nous, quand on pardonne, vous avez peut-être entendu des gens vous dire je te pardonne cette fois-ci, mais que ça ne se reproduise pas. C'est pour ça que Jésus disait qu'on devait pardonner 7 fois 77 fois. Ça veut dire qu'on devait pardonner sans compter. On ne devait pas. Parce que c'est ainsi que Dieu nous pardonne. Il met au fond de la mer tous nos péchés. On a du mal à imaginer que lorsqu'il nous voit, si nous sommes en Christ, il nous voit comme si nous étions parfaits. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Il y a plusieurs passages relatifs au caractère incroyable du pardon de Dieu. En voilà un, Michée 7, 19. Tu jettes au fond de la mer tous mes péchés. À l'époque, il n'y avait pas encore eu la calypso, Cousteau, les scaphandres, il n'y avait pas les. Quand c'était dans l'eau, jeté au loin, on ne le ressortait pas. Aujourd'hui, maintenant, il y a des sonars, il y a des petits bateaux qui vont descendre, retrouver le Titanic et tout ça, mais l'idée, c'était que c'est oublié pour toujours. Un autre passage à noter, si vous le voulez, à côté de, si dans vos Bibles, ou si c'est votre propre Bible, vous pouvez noter le psaume 103, 12, qui dit qu'autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos offenses. Il y a quatre directions, on a l'impression que les quatre directions sont équivalentes, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Mais il est bien précisé que c'est pas autant le nord est loin du sud, autant il éloigne. Non, c'est autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Pourquoi ? Parce que si vous allez en direction du nord, il y a un moment où vous allez vous retrouver à aller en direction du sud. Et vous allez faire le tour. Mais si vous allez à l'ouest, jamais vous n'arriverez à la fin de l'ouest. Si vous allez à l'est, jamais vous n'arriverez à la fin de l'est. C'est pour dire que il n'y a pas de risque que vous retrouviez face à face avec vos péchés. Un autre psaume qui va dans le même sens, dit psaume 133, dit « Si tu gardais le souvenir des fautes, éternel Seigneur, qui pourrait subsister ?» Jérémie 31, 33, 34, « Je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Qui est repris dans Hébreux 10, 17, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Dieu nous pardonne de façon incroyable. Dieu est unique. Non seulement il est unique dans la façon dont il juge, parce qu'il est parfait comme juge, il est un libérateur, quelqu'un qui nous délivre parfaitement. Il est le meilleur des bergers, il n'y en a pas d'autre, mais il est aussi le meilleur de ceux qui pardonnent. Aucun autre ne peut pardonner comme lui. On est au bénéfice du Nouveau Testament pour mieux comprendre et connaître que cette puissance du péché, Dieu l'a brisée à la croix. Paul disait, que dirions-nous donc, ça c'est Romains 6, allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché ? La mort de Jésus-Christ nous libère de la puissance du péché et de la culpabilité. Terminer en lisant dans Romains, Christ, il nous identifie à Christ, celui qui est mort et libéré du péché. Avant, il venait de dire que si nous commettons des péchés, nous devenons esclaves de celui du péché, on devient esclave de celui que l'on sert. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Nous sommes libérés par ce Dieu unique qui nous a jugés de façon juste, mais qui a fait tomber et nous a délivrés de notre punition en faisant tomber le jugement sur Christ. Et c'est lui qui prend soin de nous, c'est lui qui nous accompagne dans cette bataille contre le péché. Si nous nous soumettons à lui, si nous tournons vers lui, nous pouvons ne plus pécher. Nous ne sommes plus sous la coupe du péché, mais nous sommes sous la grâce de Dieu qui nous pardonne. Si aujourd'hui vous avez de la culpabilité dans votre cœur, si vous êtes sous la coupe d'un péché habituel, d'un ou plusieurs péchés habituels, si vous êtes accro à quelque chose, Dieu, qui est unique, veut vous libérer. Et il peut vous libérer. Tout dépend de vous-même. Est-ce que vous êtes prêt à le laisser faire ou est-ce que vous tenez à garder le contrôle de votre péché, de votre vie ? La balle est dans notre camp. Amen. Prions. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu unique. Il n'y en a pas d'autre. Tu es un Dieu parfait. Tu es un Dieu réel. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de justice. Seigneur, toutes ces caractéristiques, elles nous font du bien et en même temps, si dans nos cœurs il y a du péché, s'il y a des péchés dont nous ne repentons pas, Seigneur, nous ne pouvons pas être au bénéfice de cette libération, Seigneur. Tu veux nous libérer, mais Seigneur, tu nous laisses le choix. Seigneur, libère-nous tous de nos péchés, de nos addictions, s'il y en a. Sois glorifié, Seigneur, dans nos vies. Et Seigneur, c'est vrai que, comme nous l'avons chanté, lorsque nous recevons ce pardon, Seigneur, nous recevons cette paix divine qui nous comble de joie, qui nous rend capable d'aider les autres, qui nous rend capable de supporter l'adversité. Seigneur, sois puissamment béni, sois à l'œuvre dans nos vies, par le nom de Jésus. Et si parmi nous, il y en a qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus, vous pouvez aujourd'hui le faire d'une façon simple, en priant en silence une prière, du genre, vous pouvez répéter en silence dans votre cœur, « Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Et je vis dans une culpabilité qui m'étouffe. J'ai besoin de ton pardon. Je suis désolé pour mes actions, mes pensées, qui ont été des péchés, Seigneur, contraires à ta volonté dans mon passé. Je te demande de me pardonner. Seigneur, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés, passés, présents, futurs, que tu es ressuscité d'entre les morts. Et je t'ouvre la porte de mon cœur pour te demander de venir dans ma vie, pour être ce bon berger qui prend soin de moi. Je réalise que je ne mérite pas ce salut, que je ne peux rien faire pour le mériter, mais je reçois ton offre gracieuse. Et je te fais confiance pour la vie éternelle. Fais de moi la personne que tu veux, Seigneur. Merci d'entendre et de répondre à ma prière. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle. Amen.